japonaise, asiatique. Je vais donner un autre aperçu hein, de la question de l'ANA depuis 20 ans. Et aussi, qu'est-ce que je veux faire, c'est vraiment peut-être partir pour... c'est arrêté. Là. C'est-à-dire la question de... Les accords de commerce comme le TPP et l'accord de libre-échange entre les pays de la CERN. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est offrir quelques pistes de réflexion sur l'expansion des réseaux de production et des chaînes de valeur du Japon en Amérique du Nord. Et là, je soulève l'hypothèse ici que peut-être les accords de libre-échange que le Japon est en train de négocier, notamment le TPP et la CERN, préparent le terrain à une évolution rapide de la structure industrielle du Japon. Parce qu'on sait au Japon, présentement, il y a des gros problèmes au niveau énergétique, au niveau des coûts de faire des affaires, au niveau de la productivité, et ainsi de suite. Et il y a une redéfinition sérieuse des rapports commerciaux que le Japon entretient avec le reste du monde. Et juste peut-être une anecdote, c'est un document du gouvernement japonais qui est sorti là, récemment, qui disait, voici, nous, on a toujours fait la promotion des investissements directs étrangers, de l'exportation, et ainsi de suite, parce que ça permettait à nos entreprises de développer leur part de marché, d'avoir une meilleure productivité, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on doit le faire parce que c'est une question de survie. Et donc, le Japon, aujourd'hui, est vraiment à la croisée des chemins. Et une autre anecdote, vous savez, quand l'ANA a été signé, et ça suit aussi le traité de Maastricht, le Japon, c'est très... inquiété hein, de ce qui se passait en Amérique du Nord. On pensait qu'il allait avoir un bloc discriminatoire, un bloc fermé, le Japon serait capable d'y exporter si jamais produit, mais ça l'a inquiété sérieusement le Japon au point qu'on a décidé peut-être que c'était pas une mauvaise chose de faire du libre-échange. Aujourd'hui, le Japon, c'est un des plus grands commerçants du libre-échange. Donc, ce que je veux faire ici, c'est peut-être faire une courte présentation sur les réseaux de production, les chaînes de valeur, les firmes japonaises en Asie, et ensuite regarder ce qui se passe en Amérique du Nord, et voir qu'est-ce qu'on planifie pour l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on planifie pour l'ANA. Et donc, comme peut-être je le savent, en Asie, bon, on parle de l'usine Asie, on parle d'une division régionale du travail, hein, où le processus de production a été considérablement fragmenté. Et chaque pays participe à cette division régionale du travail selon ses avantages comparatifs, mais aussi selon la présence beaucoup des firmes japonaises. Et pendant longtemps, peut-être moins aujourd'hui, pendant longtemps, cette division régionale du travail était basée sur, était déterminée et très souvent orientée par les firmes japonaises. Aujourd'hui, le Japon, c'est un grand exportateur de pièces. De biens intermédiaires, de pièces et composantes, comme le reste des pays asiatiques. Ce processus de production était tellement fragmenté que c'est 33% des échanges de biens manufacturés en Asie sont des pièces et composantes, alors qu'en Amérique du Nord, c'est seulement 17,5%. Et donc, on a vraiment des réseaux de production très développés et les fournisseurs manufacturiers japonais hein, se trouvent 60% sur le marché local asiatique. Et les autres se trouvent au Japon et ailleurs en Asie. Il y a seulement, et ça c'est important, il y a seulement les firmes japonaises et en Amérique du Nord exportent seulement 0,5% de leur production vers leur réseau en Asie. Donc il y a vraiment une déconnexion ici entre les réseaux japonais en Asie et ceux en Amérique du Nord. Et ensuite, les manufacturiers japonais, eux, exportent. Hein, leur production, 61% sur le marché local asiatique. Hein, le reste, ça va vers le Japon, environ 17%, et ailleurs, à travers le monde. Et le Japon, là-dedans, est placé très bien hein, dans les chaînes de production. On a juste regardé un exemple parmi tant d'autres, c'est l'iPhone. Hein, où quand on regarde l'iPhone qui est assemblé en Chine et qui est vendu à travers le monde, mais la valeur ajoutée qui revient à la Chine, c'est seulement 4%. Le Japon, c'est 35%. Et donc, il est bien placé là-dedans, il sait. Les statistiques diminuent, et ça inquiète beaucoup le Japon, et on revient encore à ce que mes collègues disaient, au Japon, la politique commerciale, la politique industrielle ont toujours marché main dans la main. Et donc, on s'inquiète beaucoup de ce phénomène-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le Japon, aujourd'hui, a 70% de ses capacités manufacturières dans le monde, l'expérience du Japon en Asie. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et donc, si on regarde en Amérique du Nord, c'est difficile de trouver autant de statistiques pour les réseaux producteurs japonais en Amérique du Nord. L'intérêt du gouvernement est moins marqué que pour l'Asie. Mais non, les fournisseurs des manufacturiers japonais en Amérique du Nord font en fait 38 à 40 encore à l'extérieur du États-Unis, donc au Japon. Donc, c'est quand même assez important. Mais c'est en baisse principalement parce que l'industrie automobile japonaise en Amérique du Nord a diminué, a augmenté considérablement ses achats locaux. Ils sont passés de 31 à 52 milliards de dollars dans la dernière décennie. Et 70% des voitures japonaises vendues aux États-Unis aujourd'hui sont assemblées aux États-Unis. Et donc ça, c'est important parce que l'industrie automobile, c'est 56% des investissements directs japonais en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même assez important. Mais, en général, les firmes japonaises établies en Amérique du Nord, et ça, je parle du Canada et des États-Unis, parce que le Japon, encore, il ne considère pas dans ses statistiques le Mexique comme faisant partie de l'Amérique du Nord, 90% de leur vente se fait ici, au Canada et aux États-Unis. Donc, ils sont en Amérique du Nord pour vendre localement. Alors qu'en Asie, ils sont là pour vendre un peu partout en Asie, au Japon et à travers le monde. Et c'est basé sur des réseaux de production très, très développés. Alors qu'ici, c'est vendu localement. Et aussi, on peut regarder, par exemple, même si les manufacturiers japonais ont haussé, au niveau de l'automobile, haussé leurs achats locaux, ils exportent à peu près la même valeur en yens d'automobiles et de pièces automobiles du Japon vers les États-Unis depuis 10 ans. Ça n'a pas changé. Environ 36 milliards d'automobiles et environ 8 milliards pour les pièces automobiles. Mais ça rentre dans la logique japonaise, c'est-à-dire qu'on continue à vendre des voitures dispendieuses et des pièces et équipements à haute densité technologique dans les États-Unis. Et c'est important, parce que le Japon a toujours eu une productivité qui était beaucoup plus faible que les Américains, sauf dans trois secteurs. Et un des secteurs, c'est l'industrie automobile. Et donc, ils continuent à investir massivement dans l'industrie automobile. Et donc rapidement, c'est la situation des réseaux de production asiatiques en Amérique du Nord. Et si on regarde l'avenir, et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut voir ça de deux façons. Et ça, c'est des études qui ont été faites par le gouvernement japonais, notamment le METI, qui regarde un peu vers où les investissements directs japonais vont mener. Et en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais quand on regarde plus attentivement, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que dans les années à venir, l'industrie automobile japonaise en Amérique du Nord va devenir indépendante de l'industrie automobile au Japon. Et donc, on voudrait, à long terme, et c'est la même chose que le Mexique, dans le Mexique, on parle d'investissement automobile et de construction d'usines d'assemblage très importantes au Mexique. Et donc, on peut voir, et ça, c'est le seul intérêt que je vois hein, pour l'Amérique du Nord, du côté du Japon, c'est, regardez, on va américaniser notre industrie automobile. Et donc, on va la déconnecter, en fin de compte, de nos chaînes de production. Ça, c'est intéressant. Pour le Japon, l'Amérique du Nord, c'est une économie continentale, c'est un vaste marché. On va produire aux États-Unis pour les Américains, même chose que le Canada. Puis, c'est jamais pour l'exportation. On ne pense pas réexporter. Donc, on ne pense pas réintégrer d'une autre façon l'industrie américaine dans nos réseaux de production. C'est ça. Et la question énergétique joue un rôle important. Et le Japon aussi que éventuellement, elle ne pourra pas toujours produire autant d'automobiles qu'au Japon. On va devoir les localiser. La deuxième façon, ça c'est un petit peu moins clair, c'est que le Japon aujourd'hui, pour les raisons que j'ai dit en introduction, sont en train de repenser sa structure industrielle. Et aussi la concurrence de plus en plus vive sur les chaînes de valeur de la part des Chinois, sans parler des Taïwanais, des Coréens, et ainsi de suite. Le Japon, lui, ne veut rien savoir de retourner vers une forme de protectionnisme. Ils sont lancés dans la libéralisation de l'économie, de l'ouverture de l'économie, et donc ils veulent s'avancer encore plus loin. Et si on regarde les analyses qui ont été faites, par exemple, sur la catastrophe nucléaire de Fukushima, ou les inondations à l'automne 2011 en Thaïlande, qui ont causé beaucoup de problèmes aux industries japonaises. Ils ont montré, un, la vulnérabilité de leur réseau de production, la vulnérabilité de leur chaîne de valeur, notamment, par exemple, à l'effet d'agglomération, et tout comme ça, où il y a eu des inondations, la question aux contraintes énergétiques, et ainsi de suite. Mais ça leur a montré autre chose, c'est la résilience des réseaux de production. Ils sont capables de s'ajuster rapidement à une coupure, à un choc quelque part, et à se repositionner. Les Japonais le font depuis très longtemps. On peut remonter dans le temps et voir d'autres situations difficiles. Ils ont toujours été capables de se repositionner. Donc, le Japon, ici, s'intéresse beaucoup à ses réseaux de production. Il s'intéresse beaucoup et une des raisons aussi, on en a parlé tantôt, c'est que l'industrie japonaise, c'est la plus productive, ces industries qui sont dans l'exportation et dans les investissements directs étrangers. Et donc, et là, je reviens ici à la question, je vais accélérer un peu, à des accords, des accords en négociation avec dans le pays avec les ASEAN, c'est que le Japon est en train de dire, bien, voici, notre industrie est en train de se repositionner mondialement. D'un côté, on négocie avec le TTP, on s'assure d'un accès continu au marché américain par nos films d'exportation auxquels on accorde beaucoup d'importance. Et d'autre part, on continue les négociations avec l'ASEAN plus 6, où l'accord de libre-échange va justement nous permettre d'approfondir nos réseaux de production en Asie, en incluant l'Inde notamment, en assurant encore une plus grande diversité dans nos chaînes de valeur, et aussi nous permettre, quelque part, de se positionner par rapport à la Chine et à d'autres concurrents. Et donc, on a, et c'est pas pour rien, le Japon, hein, les investissements directs étrangers du Japon, hein, en 2007 et aujourd'hui, ils ont doublé, ils ont passé de 500 à 1000 les stocks d'investissement. Ils ont passé de 500 à 1000 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Et 120% de ces investissements-là, ce fonds a été... la hausse est de 120% en Asie. Donc, considérable. Et c'est principalement 75% par le manufacturier. Et donc, le Japon, qu'est-ce qu'il voit? C'est que, bon, l'accord de libre-échange avec l'ASEAN plus 6 va nous permettre d'approfondir nos réseaux de production, nos chaînes de valeur, pour ensuite continuer à exporter vers les Américains. Et donc, et ça c'est intéressant, c'est que depuis 20 ans, on a vu l'évolution de deux réseaux de production, un en Amérique du Nord et un dans l'Asie, et les deux ne sont pas complémentaires. Et donc, sauf que, dans la perspective du Japon, il y a peut-être une question de distance, de géographie, et ainsi de suite, c'est peut-être l'idée que, bon, en fin de compte, on est en Asie, et c'est là notre base industrielle principale. Juste un dernier point qui m'échappe à l'esprit. Ah oui, et donc pour terminer, j'avais un collègue qui a écrit un texte quelque temps qui disait que le TPP pourrait peut-être être le cheval de Troie des Américains en Asie. Moi, d'après moi, c'est le contraire. D'après moi, c'est le TPP, c'est le cheval de Troie des Asiatiques pour le Japon et des Asiatiques pour les Amériques. Et donc, on pourra, surtout, et c'est pour ça, surtout s'ils sont capables de signer et de conclure l'accord de libre-échange, la CN plus 6. Et rapidement, merci.